Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
Aujourd'hui, les élèves de la classe de 3e E vont présenter une émission sur le procès de Bobigny et l'interruption volontaire de grossesse. Récemment, en mars 2024, l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution française.
La France est devenue le 4 mars 2024 le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution le droit à l'avortement.
Pourquoi le droit à l'avortement a-t-il été inscrit dans la Constitution en France alors qu'on a une loi ?
Il a été inscrit dans la Constitution pour protéger cette loi, mais surtout pour qu'elle ne puisse être abolie.
Pourquoi ? Est-ce que cette loi risque d'être menacée un jour ?
Oui, par exemple aux États-Unis, la Cour suprême de l'Arizona valide l'interdiction quasi totale de l'avortement. Aux États-Unis, depuis la protection constitutionnelle du droit à l'avortement a été annulée en 2022. Chaque État américain est libre de légiférer à ce sujet. Concrètement, certains États qui autorisaient l'avortement auparavant font marche arrière et l'interdisent. C'est le cas du Texas, qui en décembre 2023 empêche un avortement d'urgence, alors que cette grossesse était à risque.
Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, remontons dans le temps. Johan, Maxime, Maïssa et Axel, expliquez-nous la situation des femmes en France en 1970.
Au début des années 70, l'avortement est défini comme un crime, jugé par une cour d'assises et puni d'une peine de réclusion.
Pourtant, les avortements clandestins existent. Combien y en a-t-il en France à l'époque ?
En 1971, d'après l'INA, il y aurait 800 000 avortements clandestins pour 800 000 naissances par an.
Mais Maïssa, comment étaient pratiqués les avortements clandestins ?
Il s'agissait d'aspirer le contenu de l'utérus à l'aide d'une canule et d'une seringue, voire dans le pire des cas, une aiguille à tricoter. Cette pratique était très douloureuse. Elle menait parfois à la mort par hémorragie.
Quelle est l'ampleur du phénomène dans les années 70 ?
Le nombre de décès est de 40 à 70 par an, mais les chiffres sont sans doute sous-évalués, car les décès consécutifs à des avortements peuvent avoir été classés dans d'autres causes.
Mais un procès va changer le cours de l'histoire. Nous avons retrouvé une archive qui date du jour du procès, le 8 novembre 1972, avec les journalistes Jay-Z, Emilien et Maxence.
Nous sommes actuellement au tribunal de Bobigny. Qui est l'accusé ?
Je précise que ce procès a lieu à huis clos, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas assister au débat. L'accusé est Marie-Claire Chevalier, âgée de 16 ans. Marie-Claire a été violée par un garçon de son lycée. Ce garçon l'a dénoncée dès qu'il a su qu'elle avait avorté. Ce garçon qui d'ailleurs n'a pas été poursuivi. Nous rappelons que la mère de Marie-Claire et la faiseuse d'ange auront elles aussi un procès le 8 novembre de cette année. Nous sommes dans l'attente du verdict.
Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Nous apprenons que nous pouvons entrer. Le verdict est prononcé par le président. Marie-Claire est relaxée. Marie-Claire et son avocate Gisèle Halimi tombent dans les bras l'une de l'autre. Ce jugement va changer l'histoire.
Il faut dire aussi qu'elle avait une avocate exceptionnelle, Clara et Irina. Présentez-nous Gisèle Halimi.
Figure de la lutte des droits des femmes, l'avocate franco-tunisienne Gisèle Halimi s'est battue tout au long de sa vie pour les droits humains de manière générale. Elle est née en 1927 en Tunisie. Sa mère est juive et son père est d'origine berbère. Dès son enfance, elle est confrontée à l'injustice d'être née femme. Ses parents ne voulaient pas de fille. À 10 ans, elle fait toutes les tâches ménagères, car c'est une fille. Toute son enfance, elle passe son temps à dire « ce n'est pas juste ». Elle est très forte à l'école. Elle va faire des études de droit et de philosophie à Paris. Elle revient à Tunis avec son bac, ce qui rend son père enfin fier d'elle. Elle a réussi là où son frère a échoué. À Tunis, elle se fait reconnaître par l'un des meilleurs avocats. Elle le devient donc tout en commençant par défendre des militants du Front de Libération Nationale Algérien et va continuer en 1971 par créer l'association Choisir qui aide les femmes qui veulent avorter avec Simone de Beauvoir et Jean Rostand.
En 1972, Gisèle Halimi prend la défense de Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 16 ans qui comparaît en justice pour s'être fait avorter suite à un viol. L'histoire est exemplaire. Alors, elle décide d'en faire un grand procès politique de l'avortement. Elle obtient la relaxe de Marie-Claire et de sa mère au procès de Bobigny. Procès qui ouvrira la voie à la loi de Simone Veil autorisant l'avortement en 1975. Entre 1978 et 1980, elle utilise la même arme. Elle utilise la médiatisation des procès pour faire évoluer le droit français. Grâce à elle, le viol devient un crime alors qu'il était jusque-là considéré comme un délit.
Grâce à elle, ce procès a pris une autre dimension et a permis à une femme en particulier de témoigner. Mathilde et Léa, on vous écoute.
Simone de Beauvoir a pris la parole au procès de Bobigny en tant que témoin pour défendre la cause des femmes.
D'où vient Simone de Beauvoir ?
Elle vient d'une famille bourgeoise catholique, qui sont des familles où les femmes sont au foyer. Mais elle n'est pas de cet avis, elle a beaucoup d'ambition et décide de faire de grandes études de philosophie.
Comment se fait-elle connaître ?
Simone de Beauvoir se fait connaître grâce à son livre « Le deuxième sexe », qui dénonce l'asservissement des femmes face aux hommes. Ce livre va sortir 20 ans avant les premières grandes manifestations pour le droit des femmes. En quoi Simone va-t-elle défendre le droit des femmes ?
Simone de Beauvoir va défendre le droit des femmes en s'engageant dans la lutte féministe et réclame le droit des femmes à disposer de leur corps, mais elle réclame surtout le droit à l'avortement. Les femmes réclament la fin du patriarcat et la libération sexuelle. En 1970, Simone de Beauvoir participe au mouvement de libération des femmes. Puis en 1974, elle participe à la création de la Ligue du droit des femmes. Enfin, Simone de Beauvoir est invitée sur toutes les chaînes de télévision et grâce à cette notoriété, elle fait avancer à pas de géant le droit des femmes.
Ayrton et Noah, vous pouvez nous en dire plus sur le MLF ?
Qu'est-ce que veulent dire les initiales MLF ?
Alors, les initiales MLF sont les initiales pour le mouvement de libération des femmes.
Quand et qui a été créé le MLF ?
Alors, le MLF a été créé en 1970 par Antoinette Fouque, Josiane Chanel et Monique Wittig.
Pourquoi a-t-il été créé ?
Alors, le MLF a été créé pour le droit de la contraception et l'avortement par le planning familial en France et de toute lutte contre différentes formes d'oppression et de misogynie et des revendications et l'égalité de tous les droits.
Comment ont-elles revendiqué leurs droits ?
Alors, les femmes ont revendiqué leurs droits en faisant des manifestations. Et il y a eu aussi un manifeste qui s'appelle le manifeste des 343, qui était une pétition parue le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur.
Combien de temps encore avant d'avoir une loi ? Eden, Lucas et Alexis, pouvez-vous nous en parler ?
Qu'est-ce que l'IVG ? L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. IVG est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975. Elle est dite loi Veil. Ce droit est garanti par la loi. Il permet à toute femme enceinte de demander à son médecin ou à une sage-femme l'interruption de la grossesse sans avoir à fournir de justification.
En France, les conditions d'accès à l'IVG sont les suivantes. Seule la personne concernée peut en faire la demande. L'IVG est possible jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines après le premier jour des dernières règles. L'IVG est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, avec dispense totale d'avance de frais pour les femmes assurées sociales, les mineures et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État.
Une mineure n'a pas besoin d'une autorisation parentale pour avorter, mais doit être accompagnée d'une personne majeure de son choix. Il est possible de bénéficier d'un anonymat total pour cet acte. Il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité française pour avorter en France.
En France, l'IVG est-elle autorisée ?
L'IVG, qui veut dire interruption volontaire de grossesse, est autorisée en France depuis 1975. Il s'agit de la loi Veil. L'IVG est légale. Combien y a-t-il de pays où l'avortement est interdit ?
il y a 24 pays qui refusent le droit à l'avortement. Dans ces 24 pays, l'avortement est totalement interdit. Dans 41 pays, il est autorisé, seulement pour sauver la mère. Dans le monde, le continent avec le moins de droits à l'avortement est l'Afrique. Des pays comme l'Égypte, la Mauritanie et le Togo ont la législation la plus répressive. Chaque année, on recense 6 millions d'avortements clandestins et au moins 15 000 décès. Quels sont les obstacles pour accéder à l'IVG ?
Il existe des problèmes d'accès. Les femmes sont souvent stigmatisées. Il y a des barrières culturelles et religieuses, mais aussi des manques de médecins et de structures de santé. Pourquoi y a-t-il des pays où l'avortement est interdit ?
Car pour ces pays, cela reste un meurtre. Le droit à la vie est pour eux primordial. S'il y a un avortement, le droit à la vie n'est plus respecté.
Et pour aller plus loin, Cléa et Malo vont nous donner leurs conseils.
Cléa, peux-tu nous indiquer les références d'un livre ou d'un film sur les sujets liés à l'avortement ?
Oui, pendant mes recherches, j'ai pu faire trois parties, donc j'ai choisi de parler du procès de Bobigny.
Ok, on commence par le procès de Bobigny. Il y a réellement eu un film ?
Oui, il s'appelle d'ailleurs Le procès de Bobigny. Il est réalisé par François Luciani en 2006. Évidemment, c'est un drame qui parle du procès de Marie-Claire Chevalier, donc Léa dans le film. Et ça retrace tout le procès. Et toi, Malo, as-tu des livres à nous proposer ?
Oui, Cléa, j'ai des livres à te proposer, comme Une farouche liberté. C'est une autobiographie sur le combat de Gisèle Halimi.
Je vais lire un extrait. La vie n'était pas simple. J'ai débarqué dans un Paris d'après-guerre, encore meurtri et convalescent, confronté à des multiples pénuries et au maintien des tickets de rationnement. T'es J3 ? Oui, j'ai 18 ans. Ah, t'as de la chance, t'as le droit à 100 grammes de viande. Moi, je peux crever la dalle avec mon ticket A, mais fais gaffe, ils mettent beaucoup d'os.